Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'infos, d'interactivité avec à la une un puissant message d'espoir et de résistance. Donc au moment où Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, entre autres, se coupent les cheveux dans une vidéo en soutien aux iraniennes, eh bien c'est une actrice iranienne qui sera notre invitée à 18h15. Golshifteh Farahani soutient le vent de révolte dans son pays, la star du ciné est héroïne de Pirates des Caraïbes et de nombreux films en France, vit en exil. Son tort, son seul tort, avoir enlevé son voile et avoir tourné avec DiCaprio il y a une quinzaine d'années. Elle prend la parole ce soir sur RTL. Les titres de l'actu, maintenant avec vous Marion.
4 villes, 7 stations et beaucoup de temps perdu. RTL en quête de carburant cet après-midi aux côtés de 2 livreurs parisiens. Le gouvernement reconnaît des tensions dans une station sur 10 en France. Et pour économiser l'essence, le covoiturage poussé par le gouvernement. Premières indiscrétions du plan de sobriété qui sera présenté demain. Le lourd passé de l'homme arrêté ce matin à Grenoble après un refus d'obtempérer. Le suspect était recherché et avait déjà été condamné pour avoir tiré sur la police.
Alors dans un quart d'heure, la brigade RTL avec cette question, comment mettre fin au fléau du crack à Paris? Nouvelle évacuation ce matin d'un campement, est-ce la bonne? Et puis à suivre aussi, un fil rouge, un défi dans RTL Soir. Le parcours du marathon des JO de Paris, ça y est dévoilé. Alors vous le savez, des amateurs vont suivre les champions en 2024. Et bien notre reporter reneuse Nerissa Emani va grimper le mur, la difficulté du parcours, la côte du pavé des gardes, 13% quand même s'il vous plaît. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous. Menu. Ce soir on défait le match, train contre avion, Paris-Marseille, aller-retour le 23 décembre, qui coûte le moins cher? Et pourquoi? Toutes les réponses à venir. Au menu également, le coup de vent qui va faire augmenter le prix de votre jus d'orange et James Bond étudié dans les écoles du KGB.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Un temps sec et souvent ensoleillé.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Alors, ce sont deux des mots-clés les plus recherchés aujourd'hui sur Google. Pénurie et carburant, comme une illustration de nos, de vos difficultés d'approvisionnement en station.
Oui, si le gouvernement se refuse à parler de pénurie, Olivier Véran a reconnu aujourd'hui des tensions. 12% des stations concernées dans le pays, jusqu'à 30% dans les Hauts-de-France. Mais ces tensions sont temporaires, a assuré le porte-parole du gouvernement.
Ma réponse n'est pas l'effet de panique, ne vous ruez pas tous, on ne va pas manquer d'essence. Il y a un problème de grève qui va être réglé dans certaines raffineries. Et ensuite, vous savez comment ça marche, hein. Plus on vous dit que vous risquez de manquer de quelque chose, plus tout le monde s'y précipite, et donc plus la prophétie est autoréalisatrice. On veut évidemment éviter ça, je vous assure que ce n'est pas nécessaire.
Alors le porte-parole du gouvernement qui précise aussi que pour alimenter certaines stations, l'État a déjà puisé dans les stocks stratégiques de carburant.
Et on rappelle aussi les raisons de ces difficultés, hein, la ruée sur la ristourne supplémentaire totale, cumulée à des grèves dans des dépôts de carburant et des raffineries totales, mais aussi des raffineries Esso ExxonMobil.
Et résultat, il faut parfois plusieurs heures pour trouver une station et faire le plein. Bonsoir Julie Brault.
Bonsoir.
Alors vous en avez fait l'expérience pour RTL cet après-midi avec 2 livreurs parisiens.
Oui, j'ai embarqué dans la camionnette blanche de Raphaël et Kéran avant leur livraison. Pas le choix de faire le plein, mais après 1, 2, puis 3 stations-service.
Là on est bientôt vraiment réserve-réserve et il n'y a toujours pas d'essence. C'est la dèche partout. Franchement c'est vraiment la galère.
Et j'imagine que ça vous fait perdre du temps en plus.
Du temps et surtout de l'argent. Bah, le client, il attend, quoi.
Et ça, ils le comprennent?
Ils le comprennent, oui et non, entre autres, parce que ça peut être... c'est embêtant aussi pour eux, mais on n'a pas vraiment le choix, donc on doit s'adapter pour ça.
Alors, 4e station, on trouve enfin de l'essence, mais faux espoir, le camion est trop haut.
On peut pas passer avec les camions, parce que nous, on fait quoi? On fait 3,60 m, la plupart, c'est 3,30 m, 3,20 m, on passe pas, nous. C'est pour ça que je me suis pas arrêté.
Bon, 1h30 de route et 8 stations-service plus tard, on parvient enfin à faire le plein. Un plein qui a un prix, 130 € au lieu de 100, mais surtout trop de retard, donc une livraison reportée à demain.
Là, peut-être on a perdu un client. Ça se trouve, là, le client, il a déjà fait appel à quelqu'un d'autre entre-temps. Et là, ça se trouve, demain, bah, il va appeler quelqu'un d'autre. Ils sont pas sérieux, ceux-là, alors que c'est pas de notre faute.
Alors, point positif, avec ce plein, Raphaël et Kéran sont tranquilles pendant 3 jours, mais ensuite, ils craignent de devoir de nouveau annuler des livraisons.
Oh là là. Incroyable. Et les difficultés quotidiennes de ces livreurs, les carburants, par ailleurs, dont les prix risquent de remonter, hein, au-delà de la fin des coups de pouce fin octobre. L'OPEP, en effet, qui rassemble les principaux pays producteurs, a annoncé aujourd'hui une baisse drastique de sa production, 2 millions de barils en moins, le mois prochain. Faire avec moins et avec des prix très élevés, c'est aussi l'équation qui s'applique au gaz ou à l'électricité. Après avoir appelé chacun à faire des efforts, l'État va préciser demain son plan sobriété. Bonsoir Thomas Desprez.
Bonsoir.
Avant la longue conférence de presse prévue ce jeudi, déjà de premières indiscrétions révélées par Le Parisien et confirmées ce soir par RTL.
Avec d'abord Thomas, des administrations, des collectivités qui sont priées de montrer l'exemple.
Oui, il y a du boulot. L'exemple, ça veut dire 19 degrés dans les bâtiments publics et même 18 seulement en cas de pic de consommation. Il va falloir sortir le col roulé dans les administrations. Au volant, fini les pointes à 130 sur l'autoroute. Les agents de l'État devront rouler à 110 ou 100 km. Pareil pour faire des économies. Incitation également à faire plus de télétravail avec une hausse de quelques centimes de l'indemnisation. Et puis, il y a des mesures assez surprenantes. Vous ne le saviez sans doute pas, mais la réglementation oblige à disposer d'eau chaude dans les sanitaires. C'est une obligation légale que le gouvernement s'engage à lever. En revanche, ça sera toujours obligatoire de se laver les mains en sortant des toilettes.
À l'eau froide donc, prière s'il vous plaît, mais ce plan va aussi concerner les entreprises et chacun d'entre nous.
Oui, même si ce sera essentiellement des mesures d'incitation, pas de mesures contraignantes pour les Français, mais pour vous donner quelques exemples, le gouvernement va vous demander de partager la route avec vos collègues. Le covoiturage sera encouragé avec un bonus de 100 euros pour toute personne qui s'inscrirait sur une plateforme en ligne, par exemple. Pour les sportifs, l'éclairage sera réduit dans les stades et la température baissée dans les piscines et les gymnases. Enfin, Marion, Julien, le gouvernement présentera demain une grande campagne de communication, comme à l'époque du Covid, à la télévision, à la radio, dans vos journaux, avec un spot signé du gouvernement, avec un slogan « Chaque geste compte ».
Et ça commencera sur RTL, même puisque la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, répondra demain matin aux questions d'Amandine Bégaud. Elle sera notre invitée à 7h40.
Cette mesure votée aujourd'hui à l'Assemblée, les salariés abandonnant leur poste seront présumés démissionnaires. L'Assemblée nationale a voté des amendements de la majorité et des LR pour limiter l'accès à l'assurance chômage.
RTL 18h.
RTL soir.
Et 7 minutes, on ne les arrête plus. Les forces ukrainiennes poursuivent encore ce soir leur offensive.
Et si Vladimir Poutine a dit espérer dans une réunion retransmise à la télé que la situation se stabilise, pour l'instant, ça n'est pas le cas, Émilie Beaujard. En gros, ces 5 derniers jours, les forces de Kiev ont avancé sur une quarantaine de kilomètres.
Oui, et les Ukrainiens seraient en passe d'encercler 5 brigades russes autour de Kherson, des brigades déjà mal ravitaillées. Les Ukrainiens continuent donc de faire reculer les Russes pour prendre en tenaille cette ville de Kherson, 280 000 habitants, occupée par 25 000 Russes. Et il s'agit aussi, bien sûr, de stabiliser un front avant l'hiver. Dans le Donbass aussi, à l'est, la contre-offensive se poursuit. L'armée annonce une percée dans la région de Louhansk, bastion des séparatistes pro-russes depuis 2014. Rien ne semble donc arrêter les Ukrainiens, galvanisés par leur victoire et par une armée russe en déroute. Les hommes de Vladimir Poutine préfèrent battre en retraite que d'engager le combat. Après 7 mois de guerre, les soldats russes sont épuisés, mal équipés et à court de nourriture à certains endroits.
L'Ukraine ou la Russie s'est formellement appropriée aujourd'hui la centrale nucléaire de Zaporizhia qu'elle occupe depuis des mois. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est mis en route cet après-midi pour Kiev.
Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Il était recherché, il avait déjà été condamné pour avoir tiré sur des forces de l'ordre, le passé chargé de l'homme arrêté ce matin à Grenoble après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police. À tout de suite dans RTL Soir.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec le lourd passé révélé ce soir de l'homme qui a tenté ce matin d'échapper à un contrôle de police à Grenoble.
En tirant notamment sur les forces de l'ordre qui, en répliquant, ont touché la passagère de son véhicule. La jeune femme de 18 ans est décédée. Serge Peillot, vous êtes à Grenoble pour RTL où l'on découvre donc ce soir que le suspect est en fait un récidiviste.
Oui, Wadia Kawas, 30 ans faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un mandat de recherche délivré par le parquet de Bourgoin-Jallieu en Isère, notamment pour port d'armes, violence, rébellion, outrage aux forces de l'ordre, ce qui lui avait valu une condamnation à un an de prison ferme. Plus grave, en 2012, l'homme avait déjà tiré sur des policiers à Carpentras dans le Vaucluse. En 2013, il avait été condamné à 8 ans de prison et libéré en mars 2021. D'où la colère de Yannick Biancheri, du syndicat de police Alliance à Grenoble.
Quand on voit un pédigré comme ça, un individu qui a fait des tentatives d'homicide sur mes collègues déjà, sur les forces de l'ordre, et qu'au bout de 8 ans, il est déjà dehors et il recommence. Mes collègues ont vraiment eu chaud cette nuit, parce que c'est un individu déterminé. Quand cet individu tire, il tirait pour tuer. Et on se pose la question de la réponse pénale. Si la justice ne passe pas de manière ferme, eh bien cet individu, on le reverra dans 8 ans et il refera peut-être encore une tentative d'homicide. Et peut-être qu'il arrivera cette fois-ci à tuer un policier. Donc maintenant, je demande à la justice de répondre de manière ferme.
Ressortissant marocain, Wadia Kawas faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Les précisions de Serge Puyot à Grenoble pour RTL. Et puis cette affaire qui avait fait la une, hein, il y a un an, le tir mortel de l'acteur Alec Baldwin sur un tournage. Il annonce aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec la famille de la victime. Accord qui met donc fin aux poursuites.
RTL Soir.
Paris, Versailles, Paris, de l'histoire et du sport pour le marathon des Jeux Olympiques 2024.
Dont le parcours a été dévoilé cet après-midi. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
C'est un parcours tout en symbolique et surtout unique qui a été présenté.
Exactement. Les organisateurs ont calqué le tracé sur celui de la Marche des Femmes qui, le 5 octobre 1789, était allée à Versailles réclamer du pain et la ratification de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme au roi. Elles obtinrent également le retour de Louis XVI à Paris. Le départ du marathon se fera, comme la Marche des Femmes, du parvis de l'Hôtel de Ville. Il passera ensuite par les endroits iconiques de la capitale, l'Opéra, la Place Vendôme, le Louvre, la Concorde, le Grand Palais, les Jardins du Trocadéro, mais pas les Champs-Élysées. La particularité de ce marathon, ce sont ces difficultés du jamais vu pour une épreuve olympique. Les passages les plus délicats, la côte du pavé des gardes qu'il faudra monter pendant 800 mètres avec une pente à plus de 13%, et surtout la côte des gardes qu'il faudra descendre sur 2500 mètres. Autant dire que ça va faire mal aux jambes, d'autant plus que le retour sur Paris pourrait sembler long, mais long aux concurrents qui auront la tour Eiffel en ligne de mire pendant 6 km où l'arrivée se fera sur l'esplanade des Invalides. Et puis vous le savez, ce marathon est ouvert au grand public.
Ah bah oui. Mais oui, Julien va
aller chercher l'un des 24 dossards qui sont offerts. Ce qu'il faut savoir, Julien, que ce sera le même parcours. Donc moi, je vous souhaite bon courage.
C'est non, mais moi, je ne compte pas du tout participer. Par contre, dans l'équipe de RTL Soir, il y en a une qui a décidé de se lancer sur ce parcours. Et là, ce soir, pendant l'émission, c'est vous, Nerissa Emani, la reporter runneuse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes au pied de la fameuse difficulté, le mur du marathon, la côte du pavé des gardes, pente à 13% quand même. Vous êtes au pied là, ça ressemble à quoi ?
Un mur, vous l'avez dit, un mur, une départementale 181, une côte avec beaucoup de voitures pour l'instant, mais pas un runner. Pour l'instant, je suis la seule, je peux vous le dire. C'est l'épreuve la plus difficile du marathon de Paris 2024. De loin, 800 mètres de côte, 100 mètres de dénivelé positif. Alors pour l'instant, je vais m'échauffer. On va commencer par le commencement.
Commencez par ça.
Parce que je pense qu'il ne faut pas partir à froid sur ce genre de côte.
Surtout pas.
Bon, et puis je vous retrouve.
Oui, bien sûr. Échauffez-vous et puis on donnera le top départ, le à vos marques préparé. J'adore faire ça. Ce sera à 18h30 tout à l'heure avec vous, Nerissa, tout à l'heure.
Et puis un rendez-vous ce soir à 21h, le PSG face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Match à suivre en direct et en intégralité sur RTL.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Peggy, pour demain.
Un temps sec et toujours doux demain et ensoleillé sur la plupart des régions. C'est vrai, mais il y aura beaucoup de grisailles matinale, pas mal de bandes brouillard également dans le sud-ouest. Et une fois que tout ça sera dissipé, on va retrouver du soleil, à l'exception de quelques régions, parce qu'on a les traces demain de la perturbation d'aujourd'hui, mais uniquement nuageuses. On oublie les pluies demain. Demain, ce sera nuageux le matin entre les Charentes et l'Alsace. L'après-midi, ça va redescendre entre l'Aquitaine et la Franche-Comté. De part et d'autre, du soleil une fois les grisailles dissipées. Le tout sous des températures en baisse, mais qui sont quand même douces pour la saison. De 17 à Cherbourg à 25 à Perpignan, 18 à Brest, 19 à Paris, 23 à Cognac et Lyon et 24 à Marseille.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL s'interroge ce soir. Comment mettre fin au fléau du crack à Paris? Depuis 40 ans, le problème est déplacé de square en square, d'arrondissement en arrondissement. Alors à l'aube, un énième campement de toxicomanes a été évacué dans le nord-est de la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est d'ailleurs sur place en ce moment même. On va poser trois questions à Maxime Lévy. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Julien.
Maxime, l'idée ce matin, c'était un déploiement hors norme de forces de l'ordre.
Oui, plus de 1000 policiers et gendarmes mobilisés pour démanteler entièrement le square Forceval où vivaient entre 4 et 800 toxicomanes selon les jours des fumeurs de crack contrôlés. Certains ont été emmenés au centre de rétention administrative avant une possible expulsion. D'autres ont été placés en centre d'hébergement.
Alors cette évacuation, elle ne va pas changer grand-chose. On risque de voir les consommateurs se regrouper de nouveau prochainement, non ?
Et oui, c'est tout le problème. Certains riverains ont une impression de déjà-vu depuis des années. On ne compte plus vraiment les évacuations dans le quartier. Et puis, de nombreux toxicomanes avertis ont pu quitter les lieux avant le démantèlement. Il est donc possible qu'ils réinvestissent rapidement les rues. Et puis, il faut quand même le souligner, ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas une évacuation comme d'habitude. Contrairement à il y a un an, ils avaient été déplacés du jardin d'Éole au square Forceval. Maintenant, c'est une évacuation définitive et ferme. Et
il y a un nouveau préfet de police à Paris. Est-ce qu'il a une stratégie pour résoudre enfin ce problème?
Oui, depuis son arrivée cet été, le préfet de police assure avoir renforcé la répression. 150 à 200 policiers présents jour et nuit dans le secteur. Une police judiciaire qui intensifie aussi son travail de lutte contre les trafiquants. 5 usines à crack démantelées et 24 trafiquants interpellés ces deux derniers mois. Mais le volet prise en charge médicale n'est toujours pas abouti, par exemple. Les fameuses salles de shoot qui font débat sont encore au stade de l'expérimentation. Les centres d'hébergement ne proposent qu'un accueil de court terme, sans parler de l'entente entre la préfecture de police de région et la mairie de Paris, qui n'est pas toujours évidente.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Maxime. RTL Soir continue dans un instant, au moment où des actrices comme Marion Cotillard, comme Isabelle Adjani coupent leurs cheveux en signe de soutien aux iraniennes. Eh bien, Golshifteh Farahani sera notre invitée. L'actrice iranienne soutient évidemment la révolte dans son pays. La star de Pirates des Caraïbes, de Patterson, de Singe Sabour vit en exil depuis 15 ans. Elle se confie juste après ça. Restez avec nous, c'est un très très joli message de résistance. À tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 10. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée et RTL Soir va s'arrêter maintenant sur le courage de ces femmes, de ces adolescentes même iraniennes qui défient le régime depuis maintenant mi-septembre et la mort de Mahsa Amini, une jeune fille décédée après son arrestation. La police des mœurs estimait que son voile ne couvrait pas assez ses cheveux. Depuis, la rue gronde, les universités se mobilisent, la répression est sanglante, au moins une centaine de morts. Notre invitée maintenant est l'actrice, star des écrans en France, aux États-Unis, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être avec vous.
On est ravis de pouvoir vous donner la parole également ce soir. Vous vivez maintenant depuis une quinzaine d'années en exil parce qu'à l'époque, le régime avait tenté de vous garder en Iran parce que vous alliez tourner aux États-Unis avec les Américains, avec Leonardo DiCaprio. Comment vous observez aujourd'hui cette révolte à distance? On voit que vous avez le besoin de vous exprimer, de partager votre soutien aux manifestantes sur les réseaux sociaux.
Alors là, c'est vraiment le cri de corps de tous ces femmes et les hommes. Et pour moi, regarder spécialement quand je vois les hommes soutenir les femmes, ça me donne encore beaucoup d'émotion parce que c'est la première fois que les hommes de cette planète, dans les rues, ils sont en train de mourir pour les femmes. On n'a jamais vu ça. Les hommes qui crient « femme, vie, liberté ». Et ça, c'est quand même gigantesque. On a vu avec le mouvement MeToo comment le monde a été versé. Mais ça, c'est en application. Ça, c'est le
c'est très concret. Vous avez écrit ces derniers jours, un régime qui enferme chanteurs, artistes et cinéastes est un régime qui va rendre son dernier souffle. Est-ce que vous pensez que le régime peut tomber?
Le régime doit tomber, va tomber. Ça va nous arriver, ça, un jour. Je ne sais pas quand, c'est très dur de deviner, mais c'est ce que je dis, c'est que quand on plante une graine dans un endroit, dans le désert, c'est dur que cette graine pousse. Mais chaque jour qu'on se lève et la graine est vivante, c'est important. Alors ce mouvement-là, c'est comme ça. Moi, je le regarde chaque jour. Si c'est vivant, c'est notre victoire. On ne sait pas si devenir un arbre. Et ce n'est pas grave. Mais notre victoire, c'est qu'on le garde vivant toutes les nuits, tous les matins. Et pour ça, je ne peux pas dire si c'est demain ou un jour, mais un jour, ça va arriver. Ce régime-là, ça ne peut pas tenir parce que les êtres humains, ils vont toujours vers la liberté. Alors, on va y arriver un jour.
Quel regard vous portez sur l'attitude des pays occidentaux? Est-ce qu'ils peuvent, eux aussi, aider cette graine à pousser? Et je pense à la France notamment, qui comme les États-Unis, comme d'autres pays, condamne la répression, mais quelque part ne va pas beaucoup plus loin aujourd'hui.
Bien sûr, c'est ce qu'on voit, et on le sait tous, que le Moyen-Orient, ce n'est pas Ukraine, le Moyen-Orient, ce n'est pas l'Europe, le Moyen-Orient, ce n'est pas blanc. Alors j'ai l'impression que spécialement en Europe, on ne donne pas autant d'attention à ce qui se passe en Iran, parce que là, vous voyez, l'Europe, elle a besoin de pétrole. Et comment ils vont faire? Alors, il faut serrer la main du diable pour pouvoir survivre en Europe. Et c'est ce que je vois aussi, c'est que le soutien aux États-Unis dans les continents un peu lointains, c'est beaucoup plus qu'en Europe. On n'a jamais vu la Tour Eiffel devenir les couleurs de drapeau d'Iran. Pourquoi ?
Et vous l'avez dit, il y a des hommes qui meurent aujourd'hui pour les femmes en manifestant en Iran. Est-ce que ça veut dire aussi que la société iranienne, à son tour, est peut-être en train de bouger parce que c'est une société extrêmement conservatrice ? Il y a un régime terriblement conservateur, mais soutenu par une grande partie de la population.
Bon, grande partie de la population, j'en ai doute. C'est que quand on parle de la Soviet, à le moment de Soviet, on ne peut pas dire que la grande part de la société était avec le régime. Et c'est ce que je vois en Iran, c'est ce que vous voyez dans les rues. Et l'histoire de voile, c'est la première chose qui tient ce gouvernement islamique. Et si ça tombe, tout va tomber. Alors, c'est pour ça que là, c'est devenu l'histoire. Ouais. C'est pas la pauvreté, c'est pas les sanctions, c'est pas les situations horribles en Iran. Bien sûr que tout ça, ça existe, et le peuple iranien, ça fait 3 ans qu'il vit avec. Mais finalement, ça devait être ça, une chose qui n'est pas liée à la pauvreté, qui n'est pas liée à la cruauté, mais aux femmes.
Golshifteh Farahani, la colère de ces femmes, elle fait aussi écho à votre passé, à ce que vous avez vécu là-bas en Iran. Parce que quand vous étiez jeune, vous avez été attaqué à l'acide dans ce pays par quelqu'un qui vous jugeait insuffisamment couverte. Ça fait terriblement écho à l'actualité.
Oui, c'est pour ça, je ne peux pas dire que ce n'est pas personnel pour moi. C'est pas, en fait, c'est personnel pour toutes les femmes de nos pays. Bien sûr que c'est personnel, ce n'est pas seulement ça, c'est quand on va à l'école, tous les moments qu'on est touché dans les taxis, dans les bus par les hommes, et on voit que la loi, c'est avec les hommes. Et bien sûr, si je vais, il y a 15 ans, quand j'ai enlevé le voile pour la première fois, j'étais la première actrice qui a enlevé son voile après de la Révolution, Asghar Farhadi, qui est notre réalisateur intellectuel, il m'a complètement banni. L'homme intellectuel iranien, le réalisateur, il m'a complètement banni. Son comportement avec moi, c'était inacceptable et tout le monde a vu. Parce que seulement j'ai enlevé mon voile. C'était seulement ça pour un film américain sur les tapis rouges. Mais là, quand on voit les garçons là, ils peuvent être mon fils à moi. Si j'avais un enfant à l'âge de 20 ans, j'aurais avoir un enfant de 20 ans là. Et là, qu'il mord dans les rues pour les femmes, je dis « Wow, la société a changé ».
À l'époque, quand vous étiez plus jeune, j'ai même lu que vous vous étiez rasé la tête, que vous vous habilliez comme un garçon pour pouvoir sortir sans être embêté. C'est ça le quotidien aujourd'hui des petites filles, des adolescentes, des jeunes filles en Iran? On doit parfois en arriver là pour être tranquille?
J'étais obligée de raser ma tête et prétendais que je suis un garçon. Mais bon, les filles de ce moment-là, elles n'ont pas obligé de raser leur tête. Ils lâchent leurs cheveux dans le vent et ils demandent leurs droits. Moi, j'étais obligée de raser ma tête et attendre que je suis un garçon. Et c'est ça notre différence, notre génération. On est une génération complètement traumatisée de la guerre et de la révolution. Mais cette génération-là, ils n'ont pas peur, ils sont pas timides. Et c'est ça qui est incroyable. Pour moi, quand je vois ça, ça me donne l'espoir jusqu'à la fin du monde.
On sent de l'espoir dans votre voix, Golshifteh Farahani. Vous vivez depuis plus de 15 ans en exil. Est-ce que c'est une crainte de ne plus revoir votre pays, ou alors est-ce que ce mouvement aujourd'hui vous redonne justement de l'espoir?
Notre génération, nous, les générations des années 80, on a appris de ne pas avoir d'espoir, mais juste vivre chaque jour pour ce jour-là. J'ai peur de même penser, parce que j'ai des cauchemars que je suis dans un avion qui doit d'atterrir à Téhéran et je suis en train de mourir de peur. Mmh. Mais en même temps, c'est mon rêve d'aller en Iran. Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'attends. Peut-être que moi, non, mais nos enfants peut-être peuvent revenir. Ouais. Nous, on ouvre le chemin. On était au premier rang. C'est pas grave. C'est ce qui compte. C'est la liberté. C'est pas grave. C'est ici ou en 10 ans ou 15 ans. J'espère pas. Mais on va y arriver. On va y arriver.
Merci pour votre témoignage et pour ce message d'espoir aussi. Vous, là, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, merci d'avoir été ce soir l'invité de RTL. Merci.
Merci beaucoup.
Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr.
Dans quelques secondes, RTL Soir va se poursuivre. Plus léger, le défi de RTL Soir. Notre reporter Nerissa Emani, reneuse à ses heures perdues, va grimper le mur du marathon des JO de Paris. Et puis laissez-vous tenter dernière avec le retour de Gims dans vos oreilles. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée, 18h32 minutes.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Et Marion Calais, justement, vous rappelle les trois grands titres de l'actualité dans RTL Soir.
Détention dans une station-service sur 10 en France. Le gouvernement reconnaît des difficultés d'approvisionnement en carburant, appelant au civisme pour ne pas créer la pénurie. C'est une première et malgré les tensions internationales liées à la guerre en Ukraine, une cosmonaute russe vient de décoller pour la station spatiale internationale. Et puis en Ligue des Champions, le PSG, pour poursuivre le sans faute, après deux victoires en deux matchs, les Parisiens affrontent le Benfica à Lisbonne à partir de 21h. Match à suivre sur RTL.
Et le temps demain?
Ensoleillé quasiment partout après dissipation des grisailles matinales, sauf entre les Charentes et l'Alsace le matin et entre l'Aquitaine et la Franche-Comté l'après-midi. Les températures 17 à 20 au nord, 21 à 25 au sud.
Merci Peggy.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Et on va retrouver maintenant le fil rouge, le défi de RTL Soir. Alors vous le savez, lors du marathon des JO de Paris 2024, eh bien des milliers d'amateurs vont s'élancer après les champions. Le grand public peut s'inscrire, participer. Peggy, si vous le souhaitez.
Bien sûr.
RTL se prépare déjà. Le parcours, on vous l'a expliqué à 18h, a été dévoilé et il y a une grande difficulté, c'est dingue, hein, sur un parcours du marathon, un mur, la côte du pavé des gardes, 800 mètres d'une montée absolument extrême en région parisienne. Et on retrouve au pied de la côte notre reporter reneuse, celle qui va la grimper là maintenant pour nous, c'est Nerissa Emani. Nerissa, alors je sais que vous avez chaussé vos plus belles chaussures bleues.
Exactement.
Il faut préciser aux auditeurs que vous avez un petit peu d'expérience. Vous avez déjà couru un marathon, c'est ça?
Oui, le marathon d'Amsterdam l'an dernier, mais en tant qu'amatrice, hein, bonne amatrice.
En combien de temps?
En 4h15.
Bon, c'est déjà beaucoup mieux que Cyprien Sini, voilà, quand il court un marathon.
Ne me jugez pas.
On a cherché la personne qui avait la condition physique la plus optimale dans cette rédaction. Ce n'était pas Marion. Donc le défi vous est tombé dessus. Elle ressemble à quoi, la côte? C'est vraiment un mur?
Oui, c'est vraiment un mur. Pour vous dire, je suis en bas de cette côte et je ne vois pas le bout. Je vois simplement des voitures, beaucoup de voitures. Je suis au milieu des pots d'échappement. Et donc je vais... gravir cette montée du pavé des gardes. Elle commence à Chavis, elle termine à Meudon. 800 mètres de pente à 13%. 13%, pour vous donner une idée, c'est le niveau de pente maximum des virages du Tour de France. Il n'y a pas pire à l'Alpe d'Huez, voilà, par exemple. Donc ça va être très très difficile. Du coup, d'autant plus qu'elle arrive au 27e kilomètre du marathon de Paris. Donc le corps, ouais, est déjà bien fatigué.
Voilà, vous n'avez pas couru, vous, ça va aller, Nerissa.
Non, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir vraiment m'échauffer. Donc si vous voulez, je suis un peu inquiète.
Bon, vous y allez? À vos marques, préparez.
Allez, c'est parti. Il faut préciser que je suis quand même équipée, alors avec des baskets, mais aussi avec du matériel technique, ce que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais cru avec de quoi transmettre à la radio.
Et puis on vous a rajouté un sac de plomb aussi derrière.
Un petit kilo, ça va. Et puis je suis la seule reneuse, bien sûr, il n'y a personne à tenter cette aventure folle avec moi, je suis très surprise. Il y a beaucoup de voitures qui me regardent d'un air assez étrange.
C'est elle. Nerissa, si vous nous écoutez du côté de la côte du pavé des gardes.
Je pense que aujourd'hui, du marathon, c'est sûr, la route sera entièrement dédiée aux coureurs et ce sera beaucoup plus agréable.
Vous êtes essoufflé, Nerissa, donc on vous laisse courir. Vous montez la côte et on vous retrouve dans, allez, un petit quart d'heure, 10 minutes au sommet, on espère, et puis vous nous raconterez tout. À tout à l'heure.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
18h36 minutes. Et laissez-vous tenter dernière maintenant avec le retour d'un des chanteurs rappeurs les plus populaires, Steven Bellery. Ce n'est pas Steven Bellery, le chanteur populaire. Bonsoir Steven.
Bonsoir, avec un bonheur aussi.
C'est Gims. Gims qui revient à la musique 10 mois après avoir créé la polémique. On se souvient que l'artiste aux 6 millions d'albums vendus avait invité les musulmans à ne plus lui souhaiter la bonne année.
Ouais, difficile de ne pas penser à cette erreur en écoutant sa toute nouvelle chanson baptisée Maintenant. Gims raconte pour RTL comment, avec ce morceau, il demande pardon pour ses erreurs passées.
C'est une façon de dire, écoutez, je pense que j'ai fait des conneries comme plein d'entre nous, j'ai fait peut-être des mauvais choix, etc. Mais je suis obligé de continuer d'avancer parce que j'ai pas pris de cours pour devenir star ou j'ai pas été formé pour ça. Donc j'apprends sur le tas en faisant des erreurs malheureusement, mais je suis obligé de continuer d'avancer. J'avance, je perds plus de temps. Quand tout s'effondre et tout devient sombre, je me perds dans mes pensées, etc. C'est vraiment ma vie, quoi.
C'est une chanson en forme de mea culpa ?
De mea culpa un peu, on peut tous se tromper, je suis pas politicien, je suis un artiste, quoi. Et surtout, je suis un mec, je suis un humain.
D'ailleurs, c'est une de vos chansons les plus vulnérables, d'une certaine manière.
Oui.
Vous auriez pas pu chanter ça il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, non.
Et c'est quoi, plus facile aujourd'hui de chanter « J'apprends de mes erreurs, je laisse faire, je construis peu à peu, je l'espère » ?
Oui, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 36 ans. Donc, je suis censé quand même avoir compris pas mal de choses et j'ai les comptes à rendre, en vérité. Je pense que l'artiste sera toujours responsable. Ça va pas dans l'autre sens.
Steven, Gims annonce un disque très pop.
Oui, un album qu'il promet très personnel. 2 ans après le très rap Le Fléau, Gims va s'ouvrir davantage. En témoigne ce premier titre très marqué par les années 80.
J'aime ces années-là, j'aime ce type de son. On a viré de ce côté-là sans faire exprès. Vraiment, c'était naturel. Il est très éclectique, l'album qui arrive. Dans l'album, il est très pop.
Il arrive quand? En fin d'année?
Il arrive le 2 décembre. Il s'appelle Les Dernières Volontés de Mozart.
Pourquoi Mozart?
C'est un ovni, c'est un personnage clivant, mystérieux, un virtuose.
C'est-à-dire que le ténor Gims sera beaucoup plus présent aussi dans ce disque, vocalement parlant?
Vocalement, oui.
C'est le nouveau titre de Gims, il était en écoute, album donc le 2 décembre, nous annonce le rappeur sur RTL.
C'est bien noté, merci beaucoup Steven Bellery. Et maintenant, dans RTL Soir, c'est On défait le monde, les 20 minutes d'infos autrement. Cyprien Signy, Laurent Tessier sont en train de nous rejoindre, ils sont complètement dissipés.
Là, y a Peggy qui
chute de sa chaise, bonsoir les amis.
Bonsoir, bonsoir à tous, ça me débriefait l'album de Gims.
Dans un instant.
Je trouvais que ça ressemblait à du AA.
C'est vrai.
Un peu Taïkon Me quand il a dit années 80. On est en plein dedans.
Ouais, si Steven approuve.
Il y a des
en quittant le studio. Voilà, vous savez tout. Dans un instant, on va défaire notamment les prix de la SNCF. Ouverture des billets pour Noël ce matin. Razzia sur les billets. Pourquoi l'avion est parfois moins cher que le train? On vous explique tout juste après ça.
On défait le monde. C'est dans un instant sur RTL.